Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosuma.
Une, cette assurance du porte-parole de Sokola 2 au Nord Kivu, Goma et Sake, sont hors de toute menace des rebelles du M23 et leurs alliés. L'ennemi a été repoussé, précise le lieutenant-colonel Njike Kaiko. Il confirme aussi le contrôle total de la cité minière de Rubaya par les FARDC. Surpopulation de la prison centrale de Makala à Kinshasa, les prisonniers meurent de l'étouffement. Déjà 70 morts depuis janvier 2023, signale la Fondation Bill Clinton pour la paix. Cette ONG interpelle le gouvernement congolais sur son silence. Madame, Messieurs, bonjour. La ville de Goma et la cité de Sake sont hors de toute menace des rebelles du M23 et leurs alliés. Cette assurance est du porte-parole militaire de Sokola 2. S'exprimant hier mardi devant les médias à Goma, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume précise que l'ennemi a été repoussé par les FARDC au-delà du village Kingi où il est poursuivi par l'armée. C'est à une dizaine de kilomètres au nord de Sake. Il confirme aussi le contrôle total de la cité minière de Rubaya par les FARDC sans donner des détails. On écoute le lieutenant colonel Njike Kaiko dans ses propos recueillis par Denis Lukeso.
Je dois ici rassurer la population de Goma, de Sake, même de Rubaya. Il est vrai que l'ennemi a menacé tous ses actes. Mais aujourd'hui, avec les efforts fournis par les forces armées de la République démocratique du Congo, je tiens à vous confirmer ici que Rubaya, cette cité minière, est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais aussi à Sake, où l'ennemi a tenté de mettre en insécurité et la cité de Sake et la ville de Goma. Elle a subi la puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo. Cet ennemi continue à subir cette puissance parce que l'ennemi continue à reculer. Au moment où je vous parle, ni Sake, ni Goma, ni Rubaya, aucune de ces entités ne sont menacées parce que les forces armées de la République démocratique du Congo ont été instruites de protéger toutes ces cités, mais aussi la ville de Goma et de repousser l'ennemi. À l'heure où je vous parle, nous sommes au-delà des Kings et il est en train de subir la puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc c'est ici pour moi les lieux de rassurer la population de Goma, de Sake, qu'elle continue à soutenir son armée. Et c'est ensemble que nous allons ramener l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 d'où ils sont venus.
Pendant ce temps, la société minière de Bisunzu dénonce les cas de pillage et destruction dans son périmètre d'exploitation des coltans de Rubaya. C'est à une soixantaine de kilomètres de Goma, dans le territoire de Masisi. Dans une déclaration devant les médias hier à Goma, l'avocat conseil de cette société minière annonce que leurs activités avaient été suspendues depuis le 10 février dernier à la suite de l'insécurité dans la zone consécutive à l'avancée du M23 dans le Masisi. Maître Joseph Saanane dément cependant toute collaboration entre son entreprise et les rebelles du M23, tels que colportés dans les réseaux sociaux depuis quelques jours. L'avocat conseil de la société minière de Bisunzu explique dans ses propos recueillis par Bernard Denyangi.
Des personnes mal intentionnées affirment que les éléments M23 qui se seraient emparés de la cité de Rubaya sont venus du périmètre d'exploitation 4731 de la société minière de Bisunzu. Cette information relève de manipulation éhontée afin de souiller l'image de la SMB et celle de ses responsables. La SMB a ordonné à tous ses agents de quitter le périmètre d'exploitation 4731 le 10 février courant. Le 24 février, les FARDC présents dans le village avoisinant, la mine fut contrainte à partir, ce qui a laissé libre cours aux hommes armés et une couche de la population riveraine de piller systématiquement la société minière de Bisunzu avant d'incendier le camp des agents le même jour. La SMB s'interroge cependant sur la destination de minerais extraits de ces sites pendant cette période d'insécurité où il a suspendu ses activités.
Rappelons qu'un groupe présumé des rebelles du M23 s'est emparé de la cité de Rubaya pendant quelques heures le dimanche avant qu'il soit repoussé le lundi par des présumés combattants locaux. Par ailleurs, la guerre doit s'arrêter. Aucune explication ne peut justifier la misère et les conditions inhumaines dans lesquelles vivent les populations déplacées au Nord Kivu. C'est en ces termes que s'est exprimée la représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC hier à Goma. C'est à l'issue de la visite qu'elle a rendue aux déplacés du site de Bushagara et Mugeroa à Kibati, territoire de Nyiragongo. Pour le numéro 1 de la MONUSCO, les autorités congolaises à tous les niveaux devraient être en contact régulier avec ces personnes déplacées pour les écouter et se rendre compte de leur situation. Bintou Keïta parle des conséquences invisibles de la guerre que subissent ces personnes, notamment le traumatisme qui mérite d'être pris en compte dans la réponse humanitaire aux déplacés. On écoute la chef de la MONUSCO.
Tous les témoignages sont poignants parce que ce sont des expériences individuelles et ce sont des expériences familiale et c'est des expériences de groupe, de communauté. Et ce qui est dit à travers ces témoignages, c'est que la guerre a des conséquences énormes sur les personnes et les conséquences vont au-delà de ce que l'on voit physiquement. Ça atteint le mental des personnes. Quasiment toutes les personnes que nous avons vues, d'une manière ou d'une autre, sont des personnes qui sont traumatisées. Ça, c'est déjà un des messages, c'est que au-delà de l'assistance physique en nourriture, puisque ça c'est l'un des premiers messages qui vient très clairement, il faut aussi penser qu'il y a une autre forme d'assistance qui est de prendre en compte le contexte de la santé mentale de toutes les personnes. Et c'est pas pour dire que c'est particulier, c'est simplement on est des êtres humains et donc toutes ces situations traumatisent.
Notez qu'au cours de cette visite, Mme Bintou Keïta a échangé avec les femmes au site de Mugeroa avant de parler avec le comité des déplacés à Bushagara. Entre-temps, le coordonnateur humanitaire en RDC appelle toutes les parties en conflit à respecter le droit humanitaire international et à épargner les acteurs et les biens humanitaires, y compris les aéronefs humanitaires. Bruno Lemarquis réagit ainsi suite à l'attaque sur un avion opéré par le service aérien humanitaire des Nations Unies. C'était vendredi dernier à 10 minutes de Goma lors de son retour de Walikale. D'après lui, cette attaque met en péril l'action humanitaire dans l'est de la RDC. Denise Lukesso nous en dit plus.
Le coordonnateur humanitaire s'est dit profondément préoccupé par la sécurité des opérations aériennes et des acteurs humanitaires qui dépendent de ces vols pour atteindre les groupes les plus vulnérables de la population. L'opération des services aériens humanitaires en RDC reste indispensable pour fournir une assistance humanitaire à des centaines de milliers de personnes dans certaines parties du pays difficilement accessibles, a déclaré le coordonnateur humanitaire Bruno Lemarquis. Suite à cette attaque, en conséquence, les PAM a décidé de suspendre temporairement tous les vols humanitaires dans les zones de conflit en Nord Kivu et en Ituri jusqu'à ce que des mesures supplémentaires soient prises pour garantir la sécurité des vols et des acteurs humanitaires qui les utilisent. Cette suspension aura un impact négatif sur l'acheminement de l'aide humanitaire indispensable aux personnes vulnérables dans ces zones touchées par cette suspension, indique les communiqués publiés lundi par OCHA. Cette dernière attaque est la deuxième au cours des 6 derniers mois, une première attaque ayant eu lieu en septembre 2022. Goma, Denis Lukesso, Radio Kapi.
Et puis, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, a reçu hier en audience l'ambassadeur français accrédité en RDC, Bruno Aubert. Au menu des échanges, la tournée africaine en général et en RDC en particulier du président français Emmanuel Macron dans un contexte d'un pays ravagé par la guerre. Le compte-rendu de Michel Kifindangoy.
Au sortir de cette entrevue, l'ambassadeur de la France en RDC explique le caractère fondamentalement stratégique de la relation entre les deux pays qui s'inscrit dans l'histoire mais aussi dans le présent et avec beaucoup de projets pour la RDC. Bruno Aubert.
Nous avons beaucoup de projets en commun, aussi bien de coopération militaire, culturelle, de projets de partenariats économiques, d'enseignement supérieur et de recherche. Donc nous voulons tirer en avant notre relation vers l'avenir au bénéfice des populations du Congo.
De son côté, le président de la Chambre basse du Parlement a saisi cette occasion pour appeler ses compatriotes congolais à réserver un accueil chaleureux au président français Emmanuel Macron. Christophe Mboso.
La France a toujours été un partenaire traditionnel de la République démocratique du Congo. Nous avons parlé de tout, même des sujets pour lesquels notre peuple et mécontent. L'embargo sur l'importation des armes.
Christophe Mbosso note qu'au cours d'une conférence de presse, Emmanuel Macron a soutenu la souveraineté de la RDC et que la France est intervenue à plusieurs reprises en demandant au Rwanda de retirer ses troupes et ses supplétifs du M23.
Je vous l'ai dit dans les titres, à Kinshasa, les prisonniers de la prison centrale de Makala meurent de l'étouffement à cause de la surpopulation de cet établissement carcéral. Encouragé par les magistrats préoccupés, les autorités pénitentiaires plaident pour le désengorgement drastique de Makala. Jusqu'hier, mardi, les statistiques parlent de 10 790 pensionnaires, dont 25% seulement sont des condamnés, pour une capacité d'accueil de 1 500 pensionnaires. Et ce sont les magistrats qui sont accusés de favoriser ce surpeuplement en dépit de la provisionnement régulier en nourriture. De son côté, l'ONG Fondation Bill Clinton pour la paix dénombre de janvier à février de l'année en cours 70 morts et interpelle le gouvernement sur son silence. Reportage signé Jeff Ngoy Mulunda.
Rien presque ne manque aux pensionnaires de Makala. On n'assiste plus à la rupture des stocks depuis plus d'une année, selon une magasinière et nutritionniste qui nous fait visiter trois dépôts où sont entreposés des sacs de riz, des haricots, farine de maïs, de manioc, soja, huile de palme ou végétal, sucre et tomates en boîte. Elle nous dit que les prisonniers ont trois jours de repas de foufou et trois autres pour les haricots et un jour pour le riz avec du poulet ou du poisson chinchard. Chaque matin, les mineurs et les femmes prennent la bouillie du soja. Mais ces efforts sont affaiblis par des magistrats véreux, nous lance un cri d'âme. Et la Fondation Bill Clinton pour la paix d'en réclamer des sanctions, son président Emmanuel Collé.
Mais il y a beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire les procédures judiciaires sont trop lentes et très lentes. Donc il faudrait mettre la pression sur le magistrat, surtout certains magistrats disciplinaires qui détiennent des dossiers sans fesser à la cour et tribunaux. Si ils ne respectent pas les délais de jugement, comment voyez-vous de donner l'ordre à la cour d'appel, cour et tribunaux.
Sur 11 pavillons, un est en réfection depuis plus d'une année, dont les travaux ne sont toujours pas achevés. 1000 personnes passent nuit à même le sol, d'autres debout ou en position dite ciseaux d'un seul côté. 800 dorment superposés dans une salle de 4 mètres carrés.
Direction le Congo central. Le ministre provincial des Transports annonce la reprise pour bientôt de la surveillance des chargements des véhicules pour prévenir des cas d'accidents de circulation causés par la surcharge. Pour rappel, cette mesure avait été suspendue il y a peu. Mac Matondo Kwanzambi a réuni lundi à Songololo les responsables de tous les services de son ministère, dont la Commission nationale de prévention routière et la PCR. Objectif, identifier toutes les difficultés qui ont conduit à la suspension de la surveillance de chargement des véhicules en vue de trouver des solutions. Le ministre provincial des Transports et Voies de Communication du Congo central explique le pourquoi de sa décision au micro de Nana Plurish Mambo.
Vous voyez, lorsqu'il faut charger un véhicule, il y a des normes à suivre. Mais qu'est-ce que nous remarquons ces derniers temps? Un véhicule avec un conteneur peut sortir, mais lorsqu'ils arrivent en route, ils récupèrent les périssables, ils récupèrent les sacs de foufou, les sacs de patates. Ils vont encore ajouter au-dessus du conteneur. Et c'est ce qui abîme d'ailleurs notre chaussée. D'autres véhicules qui partent par exemple dans des marchés frontaliers, et lorsqu'ils arrivent à charger leurs marchandises, vous verrez que dans un bus, on va vous charger les bidons des produits inflammables, ils vont charger tout ce qui est marchandises, ils vont encore charger d'autres marchandises au-dessus même de la toiture du bus, sans contrôler les normes. Et parfois, les passagers se placent encore au-dessus des marchandises, des véhicules comme ça, parfois moindre pépin, et bien vous êtes foutu. Et c'est comme ça que vous voyez, il y a d'autres accidents qui arrivent. Parfois vous voyez les gens sous les colis, sous les conteneurs, sous les marchandises, parce que nous chargeons les véhicules sans contrôle alors qu'il y a des normes à suivre. Raison pour laquelle nous avons réuni tous les services pour que nous puissions relancer cette activité-là.
Dans l'actualité aussi, 50 officiers de police judiciaire et 8 médecins légistes bientôt formés dans le cadre de la police de proximité à l'Équateur, ce qui justifie le lancement hier à Mbandaka de la session de formation des formateurs par le directeur adjoint du bureau de formation de la PNC et sa délégation partie de Kinshasa. La cérémonie a coïncidé avec le lancement de la deuxième phase des activités du programme de la réforme de la police, le PARP 3 à l'Équateur, avec l'appui de l'Union européenne. Reportage de Paul-Richard Malenga.
D'entrée de jeu, le directeur adjoint des écoles et formations de la PNC a rappelé l'importance de la session dans la réforme de la police, général Allen.
La formation est un volet capital, est l'un des axes principaux de la réforme, car c'est par elle que commence la professionnalisation.
Cette formation complémentaire vient à la suite du diagnostic et de la mise sur pied d'un conseil local de sécurité. Les formateurs qui sont formés durant 5 jours vont alors former 50 OPJ de l'Équateur, lesquels vont gérer la sécurité de manière consensuelle avec les différents partenaires sociaux, a dit Simon Roumen.
Pour que cette gestion partagée soit possible, il est nécessaire d'avoir des données objectives sur le terrain, sur les problématiques de sécurité, permettant de réaliser des projets au bénéfice de la sécurité des populations.
Cependant, pour une justice équitable, notamment pour de nombreux cas présumés de viol et de violences sexuelles, le commissaire provincial intérimaire de la PNC Équateur a salué aussi la formation simultanée de médecins légistes pour la province, colonel Guylain Sangwa.
Chaque fois, les procès sont toujours faussés puisqu'on n'a pas de médecins légiste ici à l'Équateur. C'est ainsi que nous avons même associé les médecins civils. La police, nous avons 5 médecins. Nous avons pris 3 médecins aussi pour donner profit à la province.
Satisfaction également de l'avocat général de l'Équateur, Mathieu Mambou.
Il s'agit là des partenaires qui interviennent dans la chaîne pénale. Mais si le médecin peut être très comme il faut, nous donner le rapport dont on a besoin, et je crois que ça nous permet d'évoluer sans difficulté.
Bandaka, prochain Malengela, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Présidentielle au Nigeria, Bola Tinubu, déclaré vainqueur par la commission électorale. Le candidat de l'ACP, le parti au pouvoir au Nigeria, va succéder à Muhammadu Buhari, 80 ans. Après 4 jours de décompte, il a obtenu ce mercredi 1er mars le plus grand nombre de voix à la présidentielle. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.